RMC.
GG, 7 et match.
On reprend en fait une proposition d'Éric Ciotti qui est candidat à l'élection chez les Républicains et qui estime que garder les droits de succession dans notre pays aujourd'hui en 2022, c'est rester en fait dans une vision passéiste de la société. Alors, les droits de succession, oui ou non, on supprime. On a une équipe qui dit non, Thomas Porcher et Elina Dumont.
Oui.
On a une équipe qui est plutôt dans le oui. C'est M. Mourad Boudjelal et Olivier Truchot. M. Mourad Boudjelal, c'est vous qui avez la minute.
Même pas prévu.
Mais justement, c'est l'effet de surprise parce que c'était toujours bon dans la spontanéité.
C'est ton sujet en plus.
Vas-y, oui.
Alors, je suis contre les droits de contre l'impôt sur les droits de succession pour une raison simple, c'est qu'on travaille toute sa vie avec un but. Ensuite, on meurt. Et quand on meurt, on a envie que le fruit de notre vie appartienne à nos enfants. Et ce qu'il y a d'injuste dans les droits de succession, c'est qu'on fait payer un impôt sur la mort. Puisque de son vivant, sur son immobilier, on n'a fait que payer. Lorsqu'on avait un salaire, on a payé de l'impôt pour payer des crédits. Lorsqu'on est propriétaire, on paye chaque année une taxe foncière, puis différentes taxes. Puis on se dit, bon, ben c'est ce qui va rester à mes enfants. Et ce qu'il y a d'encore plus anormal, c'est qu'on échange de l'immobilier, je parle d'immobilier bien sûr, contre de l'argent. C'est-à-dire que l'État vous dit... Voilà, tu as hérité de la pierre, alors tu vas me donner 10, 20, 30, 40% ou 60% du prix de
ce appartement. Oui, là, ceux qui sont vraiment très.
Oui, oui, de cet appartement ouais. ou de cette maison. Et si tu peux pas, eh ben on va la vendre. On va la vendre. Ce qui veut dire que moralement, non seulement j'ai travaillé toute ma vie pour payer de l'impôt, et lorsque je ne suis plus là, ben, ce que je voulais, c'est-à-dire protéger ceux qui sont après moi quand je ne suis plus en état de le faire parce que je ne suis plus vivant, ben, c'est l'État qui le prend. Voilà. Donc, à force de créer de l'impôt sur l'impôt, et puis surtout ces impôts détournés dans la richesse quelque part ou des toutes petites richesses, on en vient à un truc où on crée de la misère. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont hérité et qui ne sont pas en état aujourd'hui de payer l'impôt sur eux. Et tout ça va être vendu. Et qui sont les bénéficiaires? Ben, ce sont ces marchands de biens qui font les salles de vente. Pour récupérer des appartements à bas prix parce que les héritiers ne peuvent pas payer l'impôt sur la succession.
Et là.
Il a fait un peu plus.
Non, moi, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas les supprimer. Alors, en fait, bien sûr, il faut les revoir. Moi, je pense qu'il faut aplanir, les taux en bas, c'est-à-dire de ceux qui vont léguer un appartement, une maison. Tu vois, on peut les aplanir, mais en haut, il faut fortement les augmenter.
Et pourquoi?
Non, alors, je t'explique. Parce que toi, c'est vrai que ton expérience, c'est un cas à part. T'es parti de rien, t'as réussi et t'as engendré une grosse fortune. C'est quand même très rare. Je dis, les grandes fortunes en France,
sont des héritiers.
80% c'est des héritiers. Avec une formule, avec une fortune qui s'est auto-valorisée. Parce que tu sais, l'argent fait des petits, hein, quand tu le places.
Oui, mais ils ont payé beaucoup d'impôts
déjà. Attends, elle s'est auto-valorisée.
Oui, l'impôt sur l'impôt.
Tu as 10% des Français qui ont 50% du patrimoine français. Les 1% les plus riches ont 25% du patrimoine français. Donc, ça devient une société d'héritiers. Je te parle pour ceux qui ont des milliards. Donc, il faudrait refonder enfin, pour moi, cet impôt, et faire en sorte qu'effectivement, ceux qui ont travaillé dans des conditions moyennes, normales, qui lèguent un appartement, une maison, payent quasiment rien ou pas
donc
du tout.
On pourrait plafonner.
Et qu'après, il y a une progressivité qui augmente très fortement. Parce que, en fait, le problème, je vais te dire, c'est quoi aussi? C'est que les gens qui héritent de ce capital, parfois sur 3, 4, 5 générations, et qui sont à la tête parfois des grandes entreprises que nous avons en France, ils ont un discours sur le mérite, ils ont un discours sur la prise de risque, qui est en fait fausse, puisqu'ils ont hérité souvent de tout ça.
Ils n'ont pris aucun risque. Alors, je t'explique ce qui va se passer.
Non, mais attends, je finis juste ma démonstration. Il y a une concentration aujourd'hui du patrimoine entre, comme on n'a jamais vu, entre un petit nombre d'individus. Comment on fait? Alors, comment on fait? Le marché ne permet pas de redistribuer plus, je ne dis pas également, mais plus équitablement, comme ça a été le cas entre 50 et 70, ces patrimoines-là. Donc la seule façon de le faire, c'est de plus les taxer. Voilà. Ça ne va pas rendre les gens plus pauvres. Hein. Si quelqu'un, à la fin, il a 13 millions au lieu de 15 millions, ou 18 millions au lieu de 22 millions, il ne va pas souffrir.
Mais
1% à 25% du patrimoine.
Là, alors donc peut-être qu'on peut se mettre d'accord et plafonner. C'est-à-dire que ce n'est pas normal, parce que là, tu parles des grandes fortunes, on est d'accord.
Oui, c'est ce que j'ai dit, de la progressivité.
Mais c'est pas normal que quelqu'un qui a une maison, un appartement, et ça a été finalement le fruit de son travail toute sa vie, ses enfants ne peuvent pas le récupérer. parce que ça coûte trop cher en droit de succession. Et donc, effectivement, on vend l'appartement et l'appartement ne profite à personne, sauf à des marchands de biens ou à l'État qui va récupérer son argent. Je trouve ça un peu injuste. On peut aussi supprimer les droits sur les donations, parce que finalement, les enfants, ils ont surtout besoin d'argent quand ils sont dans la force de l'âge. Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. C'est-à-dire que si tes parents ont 90 ans, toi, t'en as 60, tu as 60 ans, a priori, ta vie est faite. Bon, t'as pas vraiment besoin à ce moment-là d'argent.
Mais les donations, c'est possible.
En revanche, quand t'as 20, 30 ans, quand tu t'installes dans la vie, etc., donc il faut favoriser les donations, mais il faut supprimer tous les droits sur ces donations. C'est pas normal que sur une donation, on paye de l'impôt. J'ai jamais bien compris ça. Je veux dire, c'est de l'argent qu'on donne, qu'on transmet à ses enfants.
Oui.
C'est parce que comme ça, l'enfant, il va pouvoir se rendre indépendant dans la vie, prendre un appartement.
Ouais, et puis c'est une sécurité. Voilà. C'est une sécurité est parti, ça nous rassure dans notre vie de se dire, même quand
on va chercher l'argent là où ce n'est pas forcément juste.
Oui, mais t'as quand même attention. Pardon.
Et à côté, on apprend que McKinsey paye pas d'impôts.
Attention, on est d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais tu sais, les 20% les plus pauvres, ils lèguent rien à leurs enfants. Ils lèguent rien du tout.
Mais c'est pas parce qu'il y en a qui lèguent rien. Oui, il faut tomber sur ce qui lègue.
Lui,
c'est pas ça la justice.
Je veux te dire,
c'est la vengeance.
Justement,
c'est de la vengeance ou de la jalousie.
C'est-à-dire que les enfants de Mourad, malgré tous les droits de succession qu'ils paieront, ils sont à l'abri. Tu vois ce que je veux dire? Et les 1%,
mais parce qu'ils ont la chance d'avoir un père qui a réussi.
Mais bien sûr,
s'ils peuvent pas le payer, ils devront vendre. Ils devront tout vendre et à un prix.
Oui.
Alors,
Elina Dumont.
Après vous avoir écouté avec beaucoup d'attention, parce que moi, ce problème, je ne l'aurai pas, puisque je n'hériterai de personne.
Mais, et tu ne lègueras rien non plus.
J'ai pas grand-chose. Hein. Oui. Je suis en HLM, donc.
Et tu n'as pas d'enfant.
Comment ?
Et tu n'as pas d'enfant.
J'ai pas d'enfant. Mmh. Et ravi de pas en avoir, d'ailleurs. Mmh. Bon, et j'ai pas de chien non plus. Non, parce que tu sais que maintenant, les chiens peuvent hériter.
Oui.
Non, mais c'est une histoire de... Oui. Bon, bref. En fait, moi, ce que je voulais dire, si on est un peu malin, c'est vrai ce qu'il a. Il a raison dans tout ce que tu as dit. La plupart des pauvres, ils lèguent rien, quoi.
Oui.
En fait, si on est malin, on est roublard. En fait, avant de mourir, il faut tout faire
pour donner.
Mais ça, c'est.
Oui, mais on n'a pas toujours, un rendez-vous avec la mort, quoi. On peut mourir.
Non, mais des fois, on peut le savoir.
Oui, des fois, mais bon.
Parce que moi, j'ai connu des gens, ont vidé les comptes en banque avant que le gars meure.
Oui.
Oui, mais enfin, ça aussi, c'est taxé, les donations.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait contre ces patrimoines de plus en plus concentrés? Ça, ces hyper patrimoines. Là, on parle pas du mec qui a un pavillon.
L'impôt
là,
n'est pas une réponse à tout, Thomas.
Non, mais, on est d'accord. Le mec qui a un petit pavillon. Nous sommes d'accord qu'il faut aplanir en bas. On est d'accord. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait contre l'hyper concentration de ces grands patrimoines? C'est ça le vrai truc. C'est un moment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'on laisse filer les choses? Alors là, 1% à 25% des patrimoines, c'est-à-dire de l'immobilier, tout ce qu'il y a dans les comptes en banque, un jour sera 1% à 40%, on va dire, c'est normal. Je veux dire, cette richesse, elle se concentre parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour que cette richesse s'auto-valorise. À un moment, il faut se poser la question de comment on fait pour la redistribuer. Je vois pas d'autre outil que celui de la fiscalité. Voilà, c'est tout.
Oui, mais il y a deux choses. Il y a l'impôt sur les grandes fortunes ou les gros patrimoines ou les grosses entreprises.
Qui existe déjà.
Et puis qui existe déjà. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les particuliers. Tu es d'accord qu'on peut dissocier les deux ou pas?
Oui, bien sûr. Mais quand 80% des milliardaires qu'on a en France.
Ce sont des héritiers.
Mais ils n'ont pas de problème.
Arnaud, pour toi, est un héritier.
Tu vois le chiffre, oui. Enfin,
non. Non, mais, non, il est attends, parti. Il non, avait non. Effectivement son permis.
Est-ce qu'être héritier, c'est une faute?
Je pensais que tu me parlais du fils, excuse-moi.
Je parle de Bernard Arnault. Je ne connais pas toute l'histoire de Bernard Arnault,
mais je peux vous dire une chose.
Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec Olivier. Moi, je connais l'histoire de M. Picard et l'histoire de Louis Vuitton. C'est extraordinaire leur vie. Et c'est vrai qu'il. Non, mais t'as raison, Olivier.
Oui, mais.
Il faut les sanctionner, ces gens-là.
Voilà. Non, je peux dire une chose.
Peut-être les remercier d'avoir créé de la richesse.
Toi, t'es pour la fiscalité punitive.
Sur ces grandes fortunes, les niveaux qu'elles ont atteints, ce sont des niveaux qu'elles ont atteints qui ne sont pas.
Déjà beaucoup.
Attends. Il y a un travail, il y a un destin.
Mais il faut leur remettre une médaille, peut-être, aux gens qui payent autant d'impôts.
Stop.
Un ascasie sort de sa
corps.
Il y a effectivement des parcours impressionnants, il y a des choix stratégiques impressionnants et personne ne les critique. Mais l'ampleur qu'ont pris leur fortune, c'est aussi parce que vous avez un système avec des baisses de fiscalité en plus haut, avec effectivement des possibilités d'optimisation fiscale dans certains cas. Ah, non mais avec une logique actionnariale qui a fait qu'aujourd'hui, les grands chefs d'entreprise sont payés mais 35 voire 40 fois plus que dans les années 50-70, qui leur a permis d'accumuler des fortunes colossales que nous n'avions jamais vues auparavant. Mmh. Je rappelle que Ford, qui était un grand capitaliste, il voulait que l'écart entre le salaire moyen chez lui et lui, ce soit 40.
D'accord.
Maintenant, l'écart, il est à 304 ans. Et tout le monde trouve ça normal. Et c'est ça qui est dénoncé.
La question, t'es dans un raisonnement, c'est un peu binaire, t'es en train de nous expliquer qu'il y a des pauvres parce qu'il y a des riches. C'est pas aussi simple que ça.
Quoi. Je pense que la question.
Non, mais
oui, c'est pas aussi simple que ça. Un peu. Tu me fais penser à ces gens qui comparent sans arrêt, par exemple avec les migrants, qui vont dire pourquoi les migrants ils ont ça et pourquoi les Français n'ont pas ça. T'es à peu près dans le même genre de raisonnement déguisé.
Non, mais quand tu vois les chefs d'entreprise qu'on leur salaire commande de 56% et qu'on refuse d'augmenter le SMIC de plus de 6%, pas le SMIC, laisser le salaire médian de plus de 6%, là tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un problème de répartition.
Parce que
la richesse est créée collectivement par les patrons, par les travailleurs. Les patrons ils s'augmentent fortement, les salariés ils n'ont pas le droit d'augmenter.
Non, mais d'abord. Parce que le chiffre d'affaires n'est pas un acquis, Thomas. Le jour où tu augmentes les salaires de 6%, il faut que tu augmentes ton chiffre. Est-ce que tu as la garantie que ton chiffre d'affaires va suivre chaque année? Ça, c'est la première.
Ouais, mais la boucle prix salaire n'existe pas pour les grands patrons.
Ben oui, parce que tu pourras pas baisser. Tu peux retirer des primes, mais les salaires non. Et si tu augmentes les salaires de 6%, et pour que ça continue, c'est toute une chaîne qui va augmenter quelque part, parce que ta marge se réduit.
Écoute, moi, je pense que les patrons ont toujours eu.
Tu fais pas la différence entre l'entrepreneur et le super patron qui est juste un salarié privilégié.
Et au début, je l'ai fait.
Je l'ai fait en te citant toi.
Ça n'a rien à voir, je fais la différence.
Carlos Tavares, qu'un très grand patron
du CAC 40 ou du SP500 est aujourd'hui une rémunération qui soit, je sais pas moi, 20, 30 fois supérieure à celle qu'il avait dans les années 50-70.
Grâce à ses dividendes aussi.
Mais voilà, je suis pas sûr qu'il soit 30 à 50 fois plus efficace.
Grâce à ses dividendes.
Alors là, je serais pas tout à fait d'accord avec, je serais pas tout à fait contre ce que dit Thomas. Je ferais la différence entre effectivement celui qui a créé sa boîte, qui a monté.
C'est pas pareil. Lui qui parle de son argent, on est d'accord.
C'est sans doute un très grand patron de l'automobile, mais c'est un super salarié.
Oui, mais oui. Un patron, c'est un vrai patron, c'est quelqu'un qui parle de son argent.
Ah, mais nous sommes d'accord.
Pour le moment.
Et c'est pour ça que j'ai fait la différence dès le début.
Thomas, tu focalises sur la mauvaise partie du débat.
Oui.
Je pense que.
Comme souvent d'ailleurs.
Et ce qui va permettre d'avoir notre deuxième discussion, pour l'ensemble des Français aujourd'hui, le souci, c'est pas ce patrimoine. C'est simplement quand dans la famille, tu as un bien. Ne serait-ce qu'un appartement ou même toute ta vie, tu sais, la résidence secondaire. Et là, tu peux pas payer parce que t'as pas forcément la même situation. Et c'est, on te dit, monsieur, vous devez payer. Je te dis n'importe quoi, 20, 30, 40 000 euros de droits de succession sur un appartement qui était situé en centre-ville.
Non, il a pas forcément.
Et là, tu les as pas. Et tu dis, mais je comprends pas parce que mon père ou ma mère, ils ont payé.
Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit au début?
T'as six mois pour vendre, en bas.
Il faut baisser le taux de fiscalité en bas et l'augmenter beaucoup.
Non, mais ça devient un impôt sur la mort qui est insupportable.
Ce sera la deuxième partie de notre discussion sur les droits de succession. Faut-il
payer les funérailles, l'État?
Faut-il supprimer les droits de succession, oui ou non? Qui a pris l'avantage entre les deux équipes? L'équipe qui dit non et l'équipe qui dit oui? Vous le saurez dans 3 minutes. Les GG, les grandes gueules, on parle des droits de succession. Doit-on, oui ou non, les supprimer? C'est la question que l'on se pose. Une proposition en ce moment d'Éric Ciotti, qui est candidat à la présidence des Républicains. Mais c'est vrai que c'est une proposition qui revient régulièrement dans le débat politique et hors campagne électorale aussi. Alors, on a une équipe qui dit oui, elle est menée par Mourad Boudjila, une équipe qui dit non, emmenée par Thomas Porcher. Et c'est un oui à 83%.
Comme
oui,
le bar,
il faut supprimer les droits de succession. Tu es
à
contre-courant par rapport à l'opinion.
Oui, je sais, c'est souvent le cas.
Mais moi, je propose qu'on ne les supprime, sauf pour Thomas.
Non, mais pourtant.
Parce que je pense que tu te focalises uniquement sur, effectivement, les héritiers richissimes, mais qui représentent une part infime de la population.
Oui, mais tu captes une grosse partie du patrimoine.
Mais Thomas, ton problème à toi, c'est que tu vois des masses. Alors, effectivement, il y a une masse d'argent d'un côté, et de l'autre côté, il y a une masse de gens. Voilà. Et ceux-là sont plus importants que la masse d'argent.
Oui, mais la masse d'argent va à un petit nombre de personnes. Ce qui m'étonne, enfin, je me permets, excuse-moi, après, je laisse, pardon. C'est qu'il y a des gens qui héritent d'un petit patrimoine, effectivement, qui paye trop d'impôts, et j'ai dit qu'il fallait aplanir ça et qu'ils en payent moins, et qui s'identifient à ceux qui héritent des dizaines de millions d'euros.
Si ça plus loin, on veut supprimer pour ces gens-là, parce que toi, tu veux quand même prendre un peu d'argent. Tu as dit on aplanit, mais t'as pas dit on supprime.
Je pense que le débat est clos, ils ont perdu, on peut pas
faire. Au 32-16, on a Thomas qui vient d'arriver, qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour, mon cher Thomas.
Oui, bonjour.
Alors, Thomas, allez-y, on supprime les droits de succession, oui ou non ?
Oui, évidemment, évidemment. J'ai moi-même été dans cette situation. J'ai perdu mon père assez jeune, il y a une dizaine d'années, à 22 ans. Mon père il vient de très loin. Il est fils d'institutrice dans les Vosges. C'est une belle réussite. Il est devenu dentiste. Il est mort malheureusement à 54 ans. Voilà. Donc moi j'ai un frère et une sœur. Donc à sa mort, on a forcément hérité de sommes d'argent et de patrimoine. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai entendu mon père. Donc mon père a travaillé forcément toute sa vie. Il a été taxé toute sa vie. Il a payé les impôts. Exactement. J'en paye moi-même personnellement. C'est tout à fait normal. Mais avec le peu de... j'ai entendu mon père toute sa vie nous dire, c'est pas compliqué. Je travaille 10 mois pour l'État. Je travaille 2 mois pour moi. En gros. Donc comment peut-on retaxer une somme d'argent qui a elle-même été taxée pléthore pendant toute sa vie, le peu qu'il a réussi à mettre de côté pour s'acheter une maison de vacances, pour nous emmener un peu en vacances et mettre un peu d'argent sur un compte en banque, il a quand même déjà été surtaxé. Donc j'ai très bien, j'ai beaucoup aimé votre expression, c'est une taxe sur la mort, un impôt sur la mort. Mon père a payé des impôts toute sa vie et le peu qu'il a réussi à mettre de côté, ses enfants vont devoir repayer un impôt et une taxe sur le peu d'argent qu'on lui a laissé à la fin de sa vie. Donc oui, je trouve ça vraiment scandaleux. Heureusement que ma mère est intelligente et qu'elle a réussi à nous faire quelques donations avant, même si les donations sont limitées.
Bravo, monsieur.
C'est plafonné à combien?
Ça, il faudrait déplafonner.
Je crois que l'argent, c'est limité à 10 000 euros. Je sais plus exactement les sommes, mais on s'est confronté à moi, mon frère et ma sœur, à devoir payer des sommes d'argent qui sont quand même faramineuses et colossales, devoir vendre des biens immobiliers pour pouvoir en garder certains, alors que mon père, c'est pardonnez-moi l'expression, casser le cul toute sa vie pour payer les impôts.
Au détriment de présence avec ses enfants, en plus.
Et en plus, il travaillait 6 jours sur 7, il partait à 8 heures du matin, il rentrait à 20 heures le soir.
Bien sûr.
Donc, il a travaillé toute sa vie, le peu qu'il a gagné, qu'on lui a laissé pour s'acheter une maison de vacances ou pour faire plaisir à ses enfants, le jour où il est parti, en plus, il est parti jeune, il est parti à 54 ans.
C'est jeune. Donc, en fait, ce que vous nous dites, et c'est très intéressant ce témoignage, Thomas, merci à vous, c'est que finalement, ça favorise un peu l'inactivité, un peu le côté, finalement, ça sert à rien que je travaille trop, je gagne un peu, au moins, ce un peu, il sera pas imposé, on favorise pas, en fait, c'est un système qui n'encourage pas la réussite.
Il y a un cas qui est encore plus terrible. Imaginez l'entrepreneur, je donne un exemple, l'entrepreneur qui décide de se construire un patrimoine immobilier. Qu'est-ce qu'il va se faire?
Il va mettre
en place des crédits pendant un certain temps. Pour payer ses crédits, il va se distribuer soit des dividendes, soit des salaires. Sur ses salaires, il va payer des charges sociales. Et il va aussi payer de l'impôt. Alors que c'est pas de l'argent qui va dans son pouvoir d'achat, c'est de l'argent qui rembourse des crédits immobiliers. Et à l'arrivée, en ayant payé à plusieurs tours les impôts, plus ses taxes foncières, il va encore payer un impôt sur la mort.
Et ben voilà, exactement.
Attendez, je voudrais poser une question. Vas-y. Excusez-moi, j'ai étudié le sujet, mais j'ai dû rien comprendre. Imaginons que c'est une personne au RSA qui hérite d'une villa.
Oui, il faut qu'elle la vende.
Il paye.
Bien sûr. Tout le monde.
C'est en fonction de leur revenu.
Bien sûr. Imaginez-moi, j'habite à l'île de Ré. Une maison de vacances à l'île de Ré, ça n'existe pas à moins d'1 million d'euros. Ouais. Je suis auto-entrepreneur, j'ai deux entreprises, j'ai 4 salariés, je suis un petit patron, je gagne correctement ma vie, nous n'avons jamais eu les moyens de pouvoir racheter la maison à l'île de Ré, parce que c'est une zone immobilière qui, en plus, coûte des milliers et des milliers et des milliers d'euros, parce que ça fait...
Il y a la taxe foncière déjà à payer là-bas,
l'entretien,
il y a beaucoup...
Il a réussi à se payer une maison qui vaut quand même très cher, dans un endroit très très cher.
À l'époque, elle valait combien, la maison ?
Beaucoup moins.
À l'époque, ils l'ont
acheté dans les années
90,
en fait.
Elle a pris de l'argent, en plus.
Voilà, et donc vous avez dû la vendre, en fait, pour payer les droits de succession, j'ai
exactement
bien compris, c'est ça.
Tout à voilà. Fait.
Mais en plus,
on doit la vendre vite, on a 6 mois, donc on ne la vend pas forcément bien.
Elle a pris beaucoup de valeur.
Non, mais ce que dit Ina.
Oui, mais Thomas, il aurait peut-être aimé la garder, cette maison.
Bien sûr, j'aurais adoré la garder, cette maison.
Mais voilà. Elle lui appartient plus à lui qu'à l'État, quoi.
Ah, bah oui, ça me semble. J'ai 32 ans, j'ai grandi dans cette maison en vacances.
Bien sûr.
J'ai grandi dans cette maison, et à travers la mort de mon père, on a dû la vendre parce qu'on n'avait pas les moyens de la garder.
Merci Thomas de ce témoignage.
C'est difficile de changer de qu'il faut 3 générations pour changer de statut social ou 4 générations même dans ce pays. Et ça aide pas. Ça aide pas puisque effectivement, au moment où tu dois vendre, où tu peux pas hériter pour ce genre d'héritage, ben, ça t'aide pas à changer. Au contraire, ça t'appauvrit.
Alors, aujourd'hui.
Je suis surpris Thomas que les excellent économiste que tu es, ne le vois pas.
Parce que quand on parle de ça, c'est surtout que les enfants d'ouvriers sont ouvriers, les enfants de cadres sont cadres. C'est ça le vrai problème.
Ça peut aider à changer de statut, ça peut aider.
Pour beaucoup de gens, pour une grosse partie quand même, je te dis, les 20%, ils laissent rien du tout, les plus pauvres. Après, on peut un peu monter, mais il y a une grosse partie des Français, le droit de succession, c'est pas leur premier problème.
Oui.
Leur premier problème, c'est d'avoir déjà un logement.
C'est pas leur problème qu'il faut forcément punir les autres. C'est pas parce que c'est pas leur problème qu'il faut que ça en devienne un pour les autres.
Le droit de succession supprime la richesse alors que les fortunes n'ont jamais été aussi grosses et concentrées entre les mains d'un petit nombre.
Non, on dit simplement que les droits de succession, dans le cas par exemple de Thomas, c'est injuste.
Bien sûr.
C'est injustifiable.
Je partage.
Alors attends, on a encore un témoignage.
Juste un truc, Alain. Après, on a un témoignage. Tu m'as fait rebondir sur un truc. En tout cas, pendant qu'on y est, qu'on fasse sauter. Vous savez, quand vous devez payer tous les 5 ans votre place au cimetière.
Oui.
Ah. Ben ça, il faut le faire sauter. Parce que, au bout de 5 ans, ils ne peuvent plus payer. Hein,
oui, bien sûr.
Et on prend les corps, on les brûle. Hein.
Oui.
C'est horrible.
C'est pas illogique aussi. Aujourd'hui, au niveau des donations, le nouveau système en France, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant sans milliers de droits de donation à payer.
Ça a changé. Combien?
Alors attends, un couple peut donc transmettre à chacun de ses enfants 200 000 euros en exonération de droits, abattement de 100 000 euros qui peut s'appliquer en une seule ou plusieurs fois tous les 15 ans.
Tu te rends compte quand même?
Oui, tous les 15 ans.
Donc ça veut dire que tu donnes 15 ans 100 000, après tu redonnes 100 000, là t'as pas droit. Bah oui, voilà, donc on en revient à ça.
Oui, mais là, je trouve que c'est bien de pas imposer donation, mais ça touche quand même une petite partie de la population.
En revanche,
la grande partie qui va hériter, parce que les gens, donc, en fait c'est un bien immobilier,
t'as
100 000 affilié comme ça à tes enfants, mais t'as un bien immobilier que tu donneras à ta mort.
Donc, on va se rejoindre.
Philosophiquement, tu veux expliquer quoi aux gens? Travailler, et si vous travaillez, vous allez gagner de l'argent et vous pourrez protéger les vôtres, ou travailler et vous allez payer beaucoup d'impôts.
Quelle est la formule qui va motiver les gens à faire avancer le pays philosophiquement ce qu'il faut. Effectivement, quand il faut alléger les droits de succession sur les gens qui ont des biens immobiliers dus à leur travail, ce qui est la majorité des gens.
Mais
il y a une grosse partie du patrimoine, 50% entre les mains de 10%,
mais là, on
25%
d'accord.
entre les mains d'1%, où là ils s'auto-valorisent et ils augmentent et il n'y a jamais eu autant de richesse.
Tu voudras le faire payer à mes petits-enfants.
Parce que
ils seront héritiers de mes enfants.
Et c'est cela que moi je pense qu'il faut taxer plus, parce qu'en les taxant plus, vous ne rendrez pas les gens plus pauvres. C'est ça. Vous ne les rendrez pas plus pauvres.
C'est pas compliqué. Ceux qui sont pour partager, c'est souvent ceux qui n'ont rien. Voilà.
Bah, normal. Bah oui.
Alors.
Mais attention, les impôts tombent pas dans un trou noir. Ils financent les services publics.
Ouais.
Et le service public, c'est le patrimoine du pauvre.
Ou McKinsey.
C'est pour financer McKinsey.
Voilà. Alors.
Et
les amis, c'est la fin de la discussion. Doit-on, oui ou non, supprimer les droits de succession? On avait un très très net avantage pour la suppression des droits de succession. Est-ce que la tendance est peut-être pas inversée, mais est-ce que l'équipe a réussi à remonter? Attention, c'est parti, résultat final.
On a gagné un point.
82% de gens en faveur.
Si le débat avait duré 12 heures, on aurait pu égaliser.
Et pas fiscalisé en plus.
82% en faveur de la suppression des droits de succession.